Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio CEL, la radio des 4e 5 du Collège Édouard Lucas. Dans le cadre d'un partenariat avec Radio Campus, Amiens, nous avons réalisé une émission. Elle a pour fil conducteur le travail des enfants dans le passé et le présent. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec un reportage réalisé à partir de nos travaux aux archives départementales de la Somme. Il s'agit du résultat de nos recherches à propos des lois encadrant le travail des enfants. Les filles, je vous laisse la parole.
Bonjour, nous sommes Oxane Sultani Hamda. Nous allons vous présenter l'évolution de la loi relative au travail des enfants. Jusqu'au 19e siècle, le travail des enfants était très peu encadré. Le 22 mars 1841, une première loi a été promulguée. Elle fixe l'âge minimum du travail des enfants à 8 ans. Cette loi divise les enfants en âge de travail en deux classes d'âge. De 8 à 12 ans, ils ont le droit de travailler 8 ans maximum. De 12 à 16 ans, les enfants sont autorisés à travailler 12 heures maximum par jour. Le travail de nuit est interdit aux enfants de moins de 13 ans. Le travail le dimanche et les jours fériés est interdit aux enfants de moins de 16 ans. Les enfants sont obligés d'aller à l'école jusqu'à 12 ans.
Aux archives, nous avons étudié un autre document. Il s'agit d'un rapport d'inspection d'usine dans la Somme. Il concerne le travail des enfants dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Lors de ces rapports d'inspection sur le travail des enfants, environ 1193 établissements industriels ont été visités. 527 enfants de 10 à 12 ans et 5381 de 12 à 16 ans sont employés. Les industries concernées sont la filature de lin, de coton et de lait. Celles autorisées à recruter des enfants de 10 ans et plus, les enfants munis d'un certificat travaillent jusqu'à 12 heures par jour. Ceux qui n'en ont pas travaillent 8 heures. Lors des inspections, des infractions sont relevées, telles que l'emploi de l'enfant la nuit, le manque de livret ou encore l'absence à l'école.
Merci pour ce sujet. On continue avec un autre travail de recherche réalisé aux archives. Nous avons découvert qu'au 19e siècle, certaines usines ne respectaient pas les lois en vigueur concernant le travail des enfants. Un sujet réalisé par Joas.
Nous sommes allés fouiller dans certains documents aux archives départementales de la Somme. Dans de nombreux documents, nous avons pu constater des infractions à la législation sur le travail des enfants. Avec des enfants travaillant plus de 6 heures par jour, travaillant sans livret ou travaillant sans être inscrit officiellement. Nous sommes tombés sur une lettre écrite par un père de famille le 27 août 1856 au préfet. Il demande que son fils puisse travailler à la fabrique de tapis à l'âge de 11 ans au lieu de 12 ans. Il fait cette demande car la famille n'avait pas assez d'argent. Nous avons trouvé une lettre, il s'agit de Monsieur le Jeune, dans laquelle il demande à l'inspecteur l'autorisation d'ouvrir une école du dimanche. C'est pour les gens qui travaillent la semaine et qui veulent s'instruire. Cette école serait ouverte de 6h à 8h aux jeunes gens qui travaillent. Les matières seraient les mathématiques et le français. Les enfants travaillant généralement à 12 ans, les familles étaient habituées à faire travailler leurs enfants. Cette demande montre que leur instruction était insuffisante.
Merci pour ces recherches. Je vous propose maintenant de vous rendre un peu plus au nord de la France. Charles-Édouard, Louis et Nasser vont nous parler de la mine de Leeward. Les gars, c'est à vous.
Dans notre parcours sur le travail des enfants au 19e siècle, nous avons d'abord visité le centre historique minier de Leeward, situé à 8 km de Douai dans le nord, au cœur du bassin minier.
Il est installé sur le carreau de l'ancienne fosse de Leeward, très grand lieu de gisement et d'extraction du charbon. Cela représente 8000 m² de bâtiments industriels sur un site de 8 hectares.
Le 21 décembre 1990, les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ont fermé leur dernier puits d'extraction de charbon, mettant ainsi fin à une histoire longue de près de 3 siècles.
Le centre historique minier est le plus important musée de la mine en France et l'un des tout premiers d'Europe.
Le centre minier propose de plonger dans l'univers de la mine à travers cette grande exposition thématique relatant le quotidien du mineur et de sa famille, l'histoire de l'exploitation du charbon ou encore la place des loisirs dans les cités.
On continue sur la thématique des mines avec cette fois un sujet à propos du travail des enfants dans les mines. Les gars, la parole est à vous.
Je m'appelle Antonin, avec mon ami Noah, nous allons maintenant vous présenter plus précisément le travail des enfants dans les mines.
La révolution industrielle apparaît avec l'invention de la machine à vapeur. En Europe comme en France, de grandes usines mécanisées voient le jour pour fabriquer toutes sortes de marchandises.
Des enfants travaillant dans les mines de charbon, un combustible essentiel pour faire fonctionner les machines.
Les adultes mettaient leurs enfants à la mine parce qu'ils étaient pauvres. Ils travaillaient jusqu'à 2 heures par jour pour les 12 à 14 ans.
C'était un métier dangereux, les conditions étaient très difficiles, les enfants qui l'exerçaient pouvaient attraper des maladies graves, comme des problèmes respiratoires, des bronchites, qui ne faisaient parfois leur apparition que plusieurs années après. Beaucoup perdent la vie.
Les enfants descendaient sous terre dans des tunnels à peine plus larges que leur corps.
Les enfants transportaient des charges de charbon plus lourdes que leur propre poids.
Aujourd'hui encore, dans le monde, des enfants sont exposés pendant de longues heures au soleil à concasser des blocs de pierre pour faire des routes.
Des enfants pataugent à longueur de journée dans l'eau, tamiser le sable afin de trouver des pierres plus précieuses. Environ 1 million d'enfants travaillent dans les mines et leur nombre ne cesse d'augmenter.
Ils vont sous terre, creusent, portent des charges pour extraire du cobalt nécessaire pour fabriquer ordi et téléphones portables.
Au début du XXe siècle, lorsque l'Organisation internationale du travail venait d'être créée, le spectacle affreux de jeunes gens, le corps noirci de poussière de charbon, remonte de lourds chariots depuis les entrailles dans la terre, a joué un rôle très déterminant dans l'adoption des conventions contre le travail des enfants.
Pourtant, dans le monde entier, en 2024, des millions d'enfants sont privés de leur enfance parce que contraints d'exercer un travail mettant en péril leur santé, leur dignité et leur éducation, c'est une grave violation des droits de l'enfant.
Nous laisserons Clam, Joas et Mathéo vous en parler un peu plus tard dans cette émission. C'est la fin de notre chronique, merci de nous avoir écoutés.
C'est déjà la fin de ce sujet consacré au travail des enfants dans les mines. Je vous propose d'enchaîner avec le ressenti personnel de Louis, Charles-Édouard et Nasser lors de leur visite à Leeward. Qu'est-ce qui t'a marqué, Louis, durant cette visite ?
Des maisons de mineurs étaient reconstituées et on pouvait se rendre compte de leurs conditions de vie très pauvres dans cette petite masure toutes identiques. Il y avait aussi des pièces où étaient accrochées les lampes et les vêtements spéciaux qui équipaient les mineurs. Ces objets sont des témoins de leurs existences très rudes.
Et toi, Charles-Édouard, est-ce que tu as un souvenir particulier ?
Nous avons dû mettre des casques avant d'entrer dans un ascenseur qui nous a conduits sous terre en tremblant et en grinçant. On s'est retrouvés dans une veine de la mine. On a vu un cheval qui tirait un chariot de charbon. On a appris que l'animal était descendu par une corde, attaché par les pattes, la tête en bas. Il restait dans la mine jusqu'à sa mort. C'était super réaliste et on a compris que c'était une reconstitution qu'en sortant.
Nasser, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as retenu ?
En arrivant à Leeward, j'avais remarqué des sortes de surfaces marron en pente. Le guide nous a expliqué que c'était des tapis roulants. Les enfants travaillaient dans cette zone. Ils devaient ramasser le charbon qui arrivait sur le tapis. Toute la journée, sans arrêt. En fait, les enfants pouvaient se trouver là ou au fond de la mine car leur petite taille et leur agilité leur permettaient d'accéder à des endroits impossibles pour des adultes. Leur rôle était important et ils ne pouvaient pas changer de situation ni aller à l'école pour choisir leur vie.
Merci les gars, il est l'heure d'un petit aparté. Iris et Louane vont nous lire un extrait de Germinal. Les filles, je vous en prie.
Nous allons donc vous lire un extrait de Germinal d'Émile Zola.
Il ne comprenait bien qu'une chose, le puits avalait des hommes par bouchées de 20 et de 30, et d'un goût de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer.
Dès 4 heures, la descente des ouvriers commençait.
Ils arrivaient de la baraque, pieds nus, la lampe à la main, attendant par petits groupes d'être en nombre suffisant. Sans un bruit d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montée du noir se calait sur le verrou avec ses 4 étages contenant chacun 2 berlines pleines de charbon.
Des moulineurs aux différents paliers sortaient des berlines, les remplissaient par d'autres, vides ou chargés à l'avance des bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, 5 par 5, jusqu'à 40 d'un coup, lorsqu'ils tenaient toutes les cases.
Un ordre partait du porte-voix, un beuglement, sourd et indistinct, pendant qu'on tirait 4 fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande, pour prévenir de ce chargement de chair humaine.
Puis, après un léger sursaut, la cage plongée silencieuse, tombée comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble.
« C'est profond ?» demanda Étienne à un mineur qui attendait près de lui, l'air somnolent.
« 554 mètres, » répondit l'homme. « Mais il y a 4 accrochages au-dessus, la première à 320. »
Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit. « Et quand ça casse ?»«
Ah, quand ça casse ?»
Vous écoutiez un extrait de Germinal lu par Loane et Iris. Merci pour cette superbe lecture. Dans le cadre de ce projet, en partenariat avec Radio Campus Amiens, nous avons travaillé aux archives départementales de la Somme. Nous avons visité le Ward et nous sommes aussi allés au musée de Picardie. Je vous propose d'écouter un sujet à propos de la représentation des enfants au musée. La parole est à vous.
Bonjour, je m'appelle Iris.
Moi, c'est Louane.
Et moi, je suis Aigna.
Il y a 3 mois, nous nous sommes rendus au musée de Picardie. Il est situé dans le centre-ville d'Amiens. C'est un magnifique édifice qui a été créé par Napoléon III et a ouvert en 1867. Ce musée Napoléon a ensuite été cédé à la ville en 1875 pour devenir le musée de Picardie. Il s'agit du premier musée français construit uniquement pour accueillir des œuvres d'art. Par la suite, il a inspiré de nombreux autres musées dans notre pays. Beaucoup de tableaux et de sculptures y sont exposés. On peut y admirer toutes sortes d'œuvres d'époques variées, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours.
Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à celles qui représentaient des enfants de milieux sociaux différents. Des riches, des pauvres, des enfants de paysans, d'ouvriers, de pêcheurs.
Parmi ces œuvres, j'ai envie de vous parler de la tête de jeune fille, une très belle sculpture en plâtre réalisée par Auguste Carvin en 1910. Nous l'avons particulièrement appréciée car elle a l'air pensive et calme. C'est le buste d'une enfant d'une dizaine d'années. Ses cheveux sont attachés, son regard est doux. Il se dégage de cette œuvre une expression d'harmonie tranquille. C'est la représentation d'une petite fille qui a eu de la chance d'être préservée par son milieu social du monde du travail.
Nous avons beaucoup aimé également La chasse aux papillons d'Albert Mignon. Ce tableau de 1883 montre une fillette qui essaie d'attraper des papillons. Elle court, insouciante, dans un superbe jardin fleuri. Sa vie est légère comme sa robe. Ses parents doivent posséder assez d'argent pour lui offrir cette douce existence dans laquelle elle peut jouer sans s'inquiéter de rien.
Par contraste, le tableau de la petite Suédoise Hugo Frédéric Salmson a réalisé en 1883 représente une petite fille en vêtements traditionnels usés dans un champ. Elle regarde le spectateur, une baguette à la main, et on devine que sa journée de travail est longue.
Une autre œuvre a retenu notre attention, Amarée basse, cailleux. Cette grande toile de Fernand Blaine montre des pêcheurs qui rentrent de leur dur labeur. Des enfants, pauvrement vêtus, les attendent sur la plage. Il n'est pas sûr que ces familles mangent à leur faim tous les jours. Je suppose que les enfants ne sauront jamais ce que c'est une école. Leur vie est tracée d'avance.
L'observation des tableaux et sculptures du 19e siècle au musée nous a montré le grand écart qui existait entre les enfants selon la famille dans laquelle ils naissaient. Pour certains, la vie quotidienne était simple, tandis que, pour d'autres, elle était déjà très lourde.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés.
Merci pour cette présentation. On continue l'émission. Ce projet a aussi été l'occasion pour nous de visiter le Familistère de Guise. Dans un premier temps, nous allons vous présenter Gaudin, le fondateur du Familistère.
Nous sommes Corentin,
Alexis, Loni et Luca.
Nous allons maintenant vous parler du Familistère de Guise que nous avons également eu la chance de visiter.
Cette manufacture des fameux poêles, connue dans le monde entier, a été créée par Jean-Baptiste André Gaudin, qui est né en 1817 et mort en 1888. Voici quelques mots sur son histoire.
Fils d'artisan serrurier, il est né en 1817 dans une famille modeste à Esquéhéry, dans l'Aisne. En 1840, il crée un petit atelier de fabrication de poêles en fonte de fer. Une vingtaine d'années plus tard, il devient un remarquable capitaine d'industrie.
Il est à la tête d'importantes fonderies et manufactures d'appareils de chauffage et de cuisson à Guise et à Bruxelles.
Il bâtit à partir de 1859 le Familistère ou Palais Social, un site unique au monde. C'est une utopie réalisée.
Il devient député de l'Aisne en 1871.
Pendant 30 ans, avec l'aide de sa compagne Marie Moret, Gaudin se consacre entièrement à sa mission de réformer le monde de l'usine et la vie des ouvriers.
Mort en 1888, il est aujourd'hui considéré comme l'un des pères de l'économie sociale, c'est-à-dire d'un système qui pense au bien-être des employés.
Merci les gars pour ce sujet. On continue avec une présentation plus générale du Familistère. Luca, Alexis, je vous redonne la parole.
En effet, Jean-Baptiste Gaudin a créé à Guise une industrie de fabrication d'appareils de chauffage en fonte. Les poêles Gaudin a regroupé ses employés dans un lieu coopératif qu'il a appelé le Familistère. Nous avons d'ailleurs vu des poêles de taille et de formes différentes dans les appartements où nous pouvions entrer. Ce sont de très beaux objets. L'idée pour Gaudin était de créer un ordre social harmonieux, une utopie en réaction à la société industrielle de l'époque. Comme si patron et ouvrier vivaient ensemble dans une grande famille.
C'est Gaudin lui-même qui dressa les premiers plans de son familistère. Un bâtiment central, une aile droite et une aile gauche. L'ensemble, usine et familistère, est construit en briques sur un terrain de 18 hectares. Le familistère est plus précisément composé du palais et de diverses dépendances. Il y a des équipements destinés à l'enfance, comme à la nourricerie et le pouponnat. La crèche, des équipements commerciaux, d'économat et des bâtiments scolaires, culturels et sportifs. Le théâtre, l'école, la buanderie-piscine. Le palais est lui-même constitué de trois bâtiments d'habitation qui possèdent chacun une cour intérieure pavée, protégée par une verrière. C'était un espace agréable où jouaient souvent les enfants. On donnait parfois des spectacles. Gaudin portait une attention particulière sur la lumière, les logements traversants, éclairage au gaz et à l'eau. Un point d'eau à chaque étage, de l'eau chaude pour la blanchisserie, de l'eau pour l'arrosage des jardins.
Le familistère est donc un lieu assez particulier où les enfants et l'éducation ont une place à part entière. C'est ce que Alexis, Loni, Corentin et Luca vont nous expliquer.
Comment s'organiser l'éducation des enfants au familistère de Guise ?
Dans le familistère, il y avait une école mixte pour les enfants. Elle était obligatoire et gratuite jusqu'à 14 ans, alors que la loi de l'époque autorisait le travail des enfants à partir de 10 ans. Gaudin était donc en avance sur son temps. Les parents du familistère étaient obligés d'emmener leurs enfants à l'école. En 1871, il y avait 320 élèves scolarisés.
Avant l'âge de l'école, on trouvait une nourricerie de 50 berceaux, ouverte jour et nuit. Pour les petits de 0 à 12 ans, une pouponnière pour les 2 à 4 ans et un bambina pour les enfants de 4 à 6 ans. Pour Gaudin, l'éducation et notamment celle des enfants était très précieuse.
L'école était un prolongement de l'habitation et les deux architectures se ressemblaient. On passait de l'une à l'autre par un passage couvert. L'école devait être le cœur du familistère. La cour du pavillon central fut le préau et la grande place fut la cour de récréation. Les classes étaient claires, aérées et agréables. Nous sommes allés dans l'école et avons vu les petits bureaux que Gaudin faisait fabriquer à la taille des enfants pour qu'ils soient mieux installés. C'était des pupitres à deux places, alors que la majorité des écoles de cette époque n'utilisaient que de grands bancs collectifs. En 1870, deux bâtiments furent ajoutés.
La pédagogie était novatrice. Développement intellectuel et physique harmonieux de l'enfant, jeux et interdiction des punitions corporelles, règles de vie en société, apprentissage des matières générales, mais aussi cours de gymnastique, travaux manuels, jardinage et pratiques artistiques, avec l'accès direct au théâtre, situé à côté de l'école.
Les écoliers allaient aussi dans la buanderie-piscine. Ils pouvaient y apprendre à nager sans danger grâce au bassin, équipé d'un plancher mobile en caillebotis, qu'un treuil permettait de relever jusqu'à la surface de l'eau.
En 1863 est organisée la première fête de l'enfance, lors de laquelle compliments et récompenses sont remis dans une grande cérémonie.
La réalisation de cette utopie constitue une incroyable avancée pour l'époque, mais il s'agit tout de même d'une organisation très dirigiste à la gloire du travail et de l'entreprise Gaudin.
Cela fait réfléchir sur la place de l'école et des enfants, autrefois et maintenant. C'est la fin de notre sujet, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que notre chronique vous a intéressé. Cette expérience étonnante du familistère était malheureusement une exception. La condition générale des enfants ouvriers du 19e siècle était dure pour la majorité d'entre eux. C'est ce que dénonce Victor Hugo dans un célèbre poème « Je laisse le micro à Louane et Bilal ».
Merci pour ces sujets consacrés au familistère de Guise. Avant de continuer, je vous propose un petit peu de poésie. Nous allons vous lire « Mélancolia » de Victor Hugo, une lecture réalisée par Louane et Bilal. En effet, nous aimerions maintenant vous dire un extrait du poème « Mélancolia » écrit par Victor Hugo en 1856.
Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement. Dans la même prison, le même mouvement, accroupi sous les dents d'une nœud machine nœud sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, en jeu dans un enfer, il travaille, tout est d'airain, tout est de fer, jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, Quelle pâleur ! La cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas.
Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande, où va-t-il ? Que veut-il ? Qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme.
C'était le 19e siècle. Est-ce différent aujourd'hui ? Nous laissons la parole à Léna et Lisa.
Merci pour cette très belle lecture. Après avoir exploré l'histoire et le passé, plongeons-nous dans le présent. Lisa et Léna souhaitent nous parler de la problématique des enfants exploités par certaines entreprises.
Peut-être que vous ne le saviez pas, mais dans le monde, beaucoup d'enfants ne vont toujours pas à l'école. Et même si certains pouvaient s'y rendre, ils devraient marcher pendant des heures ou alors payer, sauf qu'ils n'ont pas forcément l'argent nécessaire. Donc, une partie des enfants, dans le monde, travaillent pour gagner de l'argent pour leur famille. Certaines marques pensent même qu'ils sont encore trop payés, alors qu'ils ne gagnent quasiment rien. Et tout ça dans de mauvaises conditions. Certains risquent même leur vie pour pouvoir faire, par exemple, la teinture de nos vêtements. Vous portez au quotidien des vêtements de marque, connus, mais savez-vous d'où viennent ces vêtements et comment ont-ils été fabriqués ? H&M, Adidas, Mango, Nike, Action, Puma, Amazon, Shein, New Balance, Zara, Temu, Asics, Primark, Gucci et plein d'autres marques encore font travailler les enfants en Turquie, en Chine, au Bangladesh, en Indonésie, au Mali, au Niger ainsi qu'au Népal. Ces pays sont en quelque sorte l'usine de vêtements de l'Europe. À l'heure actuelle, de nombreuses marques sont accusées de fermer les yeux sur le travail forcé des enfants.
Des millions de chaussures et d'articles de mode sont produits en Chine par des travailleurs forcés de la population ouïghour. Dans certains pays de l'Est également, les enfants travaillent comme des adultes. En France, nous avons la chance de pouvoir aller à l'école, nous instruire et ne pas mettre en danger notre santé. Ce n'est pas le cas partout, c'est inadmissible.
L'exploitation des enfants dans le monde est une problématique importante. Mais que dit la loi à ce propos ? Clam, Mathéo et Joas vont nous expliquer.
En effet, que dit la loi ? Les droits de l'enfant sont-ils les mêmes partout ?
L'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît, depuis 1989, le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail, comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou mental. Quand dit-on qu'un enfant travaille ?
On dit qu'un enfant travaille quand les tâches qu'il effectue lui prennent tant de temps ou l'épuise tant qu'il ne peut pas aller à l'école, l'empêche de jouer, de s'épanouir, nuise à sa croissance et l'exclut, mettre sa santé et son développement physique en danger. En France, est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent ? Est-ce qu'on ne vit pas dans un pays riche ?
La France est un pays riche, mais malgré tout, beaucoup de familles y subissent la précarité. Elles ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Pour survivre, plusieurs milliers de petits Français sont donc obligés de faire toutes sortes de boulots, souvent dans des conditions très pénibles. Il paraît qu'il y a même des enfants qui se prostituent à Paris.
Dans toutes les capitales du monde, des enfants, adolescents, victimes de trafic d'êtres humains et de la traite, se prostituent. Ils viennent des pays de l'Est, d'Afrique, du Maghreb, de Chine ou d'Inde. Ils sont présents à Paris, mais aussi dans les grandes villes françaises telles Marseille ou Lyon. On estimait leur nombre à 8000 au début des années 2000. On compte aussi des mineurs français, pauvres, exclus ou en rupture sociale. En France, employer clandestinement un enfant de moins de 16 ans peut valoir 5 ans de prison ferme. Les filles travaillent-elles autant que les garçons ?
Pour les plus jeunes, le travail n'a pas de sexe. Soldats, mineurs, agriculteurs, mendiants, prostituées, vendeurs à la sauvette, gardiens de bétail, collecteurs d'ordures, tisseurs, tailleurs, de multiples formes de travail précoces sont imposées aux filles comme aux garçons. Plus ils sont jeunes, plus il leur est difficile d'y échapper. Entre 5 et 14 ans, presque autant de filles que de garçons sont obligés de travailler. L'écart se creuse ensuite au désavantage des garçons. Entre 15 et 17 ans, la main d'œuvre masculine devient plus importante. Garder ses frères et sœurs, est-ce du travail ?
Un enfant peut faire la nounou ponctuellement. Mais cela est problématique. S'il a la charge de ses frères et sœurs, plusieurs heures par jour, toute la semaine, il fait alors un vrai travail non rémunéré, qui se compte en dizaines d'heures. Cela arrive en France, comme au Burkina Faso ou au Colombie. Les familles monoparentales sont particulièrement exposés à ce type de problème. La crise économique touche-t-elle aussi les enfants ?
La hausse du chômage chez les adultes se répercute sur l'augmentation du travail des enfants. Pour combler le manque d'argent, les enfants sont alors obligés de travailler. On les retrouve surtout dans les secteurs les moins visibles de l'économie. Corvées domestiques, petits boulots de rue, distribution de prospectus, aide sur les marchés, emplois clandestins dans l'agriculture, le bâtiment et le commerce. Tous ces enfants qui travaillent dans le monde, que font-ils ?
Posteurs dans les gares d'Asie.
Esclaves dans les ateliers de tapis du Pakistan ou d'Égypte.
Petites bonnes du Maroc.
Domestiques en Asie ou en Afrique.
Forgerons au Nigeria.
Mangeant dans les rues du Caire, de Bucarest ou de Moscou.
Mineurs au Burkina Faso.
Prostituées dans le monde entier.
Coupeurs de canne à sucre en République dominicaine.
Chercheurs d'or au Pérou.
Soldats en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie.
Fabricants de vêtements, ballons, allumettes ou feux d'artifice.
Ils font tous les métiers les plus pénibles et les plus dangereux. Et pendant ce temps, nous, on râle pour ne pas aller à l'école.
Merci pour ce sujet. Je vous propose une petite pause musicale avec le morceau « Pour louper l'école » d'Aldebert.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à... faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid. Manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac. Faire mon service militaire, traverser la Manche en bouée. Chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier. Oh,
pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
devenir magicien pour me faire disparaître. Prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète.
Prendre en otage ma petite sœur.
Terminer mes choux de Bruxelles.
Manger des crayons de couleur
pour vomir un arc-en-ciel.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école,
moi j'irai jusqu'à...
sans armes contre un gladiateur.
Je serai prête à me battre.
Imiter les cascadeurs.
Respirer, finir dans le plâtre.
Avaler de sang limace pour effrayer les ascites. Faire sauter la salle de classe à la dynamite.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
pour louper l'école,
je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
pour moi c'est pire que le bagne. Et lorsqu'il eut inventé ce sacré Charlemagne, aurait dû rester couché.
Comptez pas sur moi les gars, c'est sympa mais c'est sans moi. Oui j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter les gars.
On peut pas y aller, on peut faire rester couché. Pour l'humain, pour de la part, la maîtresse en maille et pas. On peut pas.
Habiter dans les toilettes, provoquer un ours en duel,
avaler une clarinette,
ou repeindre la tour Eiffel,
boire du coca périmé
pour attraper des boutons,
manger du beurre toute la journée,
finir aussi gros qu'un camion,
chanter du Lori en latin,
faire une sieste de 6 mois,
manger la pâté du chien,
apprendre l'annuaire en chinois,
ne respirer qu'une fois sur deux,
me laver à l'eau de Javel,
ne plus jamais cligner des yeux,
torturer le Père Noël.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
là. Vous écoutiez le titre « Pour louper l'école » d'Aldebert. Je vous propose de continuer avec le portrait d'Imad, le sujet réalisé par Léna et Lisa.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Imad. Il vit en République arabe syrienne. Il a 13 ans et a quitté l'école il y a 3 ans. Un an après, il s'est mis à travailler dans un atelier de mécanique automobile. Il est l'aîné d'une famille de 7 personnes. Il est le seul à travailler dans sa famille. Ses parents ne trouvent pas d'emploi et si lui ne travaille pas, personne dans sa famille ne pourra manger.
Il est le seul soutien de sa famille. Imaginez-vous, à 13 ans, travaillant comme un adulte, toute sa famille dépend de lui. Seul, il doit assurer le revenu de tous. Il n'a aucun rêve et ne peut sûrement pas s'en permettre d'en avoir un. Il gagne à peine 5000 sips, qui équivalent à 7 dollars américains.
Merci pour ce portrait touchant. Nous souhaitons vous proposer un autre portrait, celui de Drissa. Bilal, je t'en prie.
Bonjour, je m'appelle Bilal et je reviens de mon voyage au sud du Mali. J'y ai fait un reportage sur le travail des enfants, car je veux dénoncer cette chose horrible. Trissa a accepté que je parle de lui. Trissa a 12 ans, il travaille dans une mine d'or pour apporter un soutien financier à sa famille. Il doit retirer la terre des puits pour aider les creuseurs. Son travail est dangereux et épuisant. L'après-midi, Trissa vend de l'eau dans le camp et s'il a eu une bonne journée, il gagne 4 euros. Il garde 1 euro pour acheter du riz ou du couscous avec un peu de poisson. Le reste est pour sa famille. Trissa a 4 frères et 3 sœurs. Son père ne gagne pas assez d'argent en tant que fermier. Quand j'ai vu ça de mes propres yeux, cela m'a bouleversé. Vous trouvez ça normal que des enfants travaillent ? Non, c'est révoltant. Il faut agir pour que ces enfants aient une scolarité. J'ai pris des photographies du travail de Trissa. Sur l'une d'elles, il porte des bassines remplies d'eau qui semblent très lourdes et pousse un chariot rempli de jerrycans. Trissa espère les vendre à des négociants qui y cherchent des pépites. Il s'épuise pour quelques sous. Je regarde la dernière photo que j'ai prise de lui. Il se repose à l'ombre d'une tente avec son oncle et ses amis. On pourrait presque croire que c'est un enfant heureux, mais la vérité est que c'est un enfant déjà usé.
Merci pour ce dernier sujet. On passe tout de suite à la conclusion.
Notre projet de classe sur le travail des enfants a été très riche de découvertes pour nous. Nous avons visité des très beaux lieux chargés d'histoire, le musée de Picardie, les archives départementales de la Somme, le musée de la mine à Lourdes, le familistère de Guise.
Avec nos professeurs d'histoire, de musique, de français et nos documentalistes, ainsi que Hugo et Rémi de Radio Campus, nous avons effectué des recherches sur le travail des enfants en France et dans le monde et avons étudié des textes et des documents.
La conclusion est triste. Les enfants pauvres du 19e siècle connaissaient de rudes conditions de vie et de travail. Nous pensions que cela n'existait plus aujourd'hui, que tous les enfants pouvaient aller à l'école pour avoir le temps de construire leur avenir. Mais, comme nous vous l'avons expliqué, des millions d'enfants sont toujours exploités. L'un des principaux risques est que ces enfants voient leur santé se détériorer rapidement. La manipulation de produits chimiques, le port de charges trop lourdes, ou encore le travail pendant des heures entières, dans les lieux sombres et pollués, pouvant aboutir à des déformations physiques ou des troubles graves. L'autre atteinte est psychologique. Quel bonheur ces enfants peuvent-ils espérer ?
Le 12 juin, la journée mondiale contre le travail des enfants est dédiée à tous ces enfants forcés de travailler alors qu'ils devraient être à l'école. Pensez-y avec nous, élèves du collège Édouard Lucas, nous vous remercions d'avoir suivi cette grande émission. Et vous souhaitons une belle journée. Soyez heureux sans raison, comme devraient l'être tous les enfants.
C'est déjà la fin de Radio CEL, la radio des 4e 5 du collège Édouard Lucas. Cette émission a été réalisée en partenariat avec Radio Campus Amiens. Retrouvez-nous en podcast sur radiocampusamiens.fr. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur le 87.7 FM.